Vous écoutez
RMC.
Bon réveil, vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Des mesures d'urgence pour ne pas mourir de froid. Le plan grand froid activé dans une vingtaine de départements. Un refus d'obtempérer dans les Vosges. Deux gendarmes blessés renversés par le conducteur toujours en fuite ce matin. Et puis les salles de cinéma n'ont jamais été aussi vides depuis 28 ans. Forte baisse de fréquentation plombée par l'absence de films à gros succès.
Des places d'hébergement d'urgence, plus de moyens pour les maraudes, le plan grand froid activé dans plusieurs départements.
Dans une vingtaine de départements du nord de la France pour permettre aux associations d'aider davantage de personnes sans abri, très vulnérables face aux températures négatives. Un homme sans abri retrouvé mort dans la rue hier à Reims. Aide vitale donc des bénévoles comme ceux de la Croix-Rouge qui a pu suivre Léonie Guilbeault hier soir. Reportage en région parisienne dans le Val-de-Marne.
Nous faisons route vers la commune d'Ivry-sur-Seine pour le signalement. Est-ce reçu ?
Premier arrêt pour Patrick et son équipe de bénévoles à un parking souterrain où une dame qui vit à la rue a trouvé refuge.
Ici, qu'il fait froid, il y a du vent. Donc, automatiquement, ils essaient de se protéger, notamment des courants d'air.
C'était à zéro, donc ça peut faire du moins 5 en ressenti.
L'objectif, la convaincre d'accepter une place d'hébergement d'urgence, explique Catherine.
C'est vraiment le premier but de la maraude, c'est d'établir un lien de confiance pour les amener à aller vers les lieux d'accueil, etc.
Mais ce ne sera pas pour ce soir.
Beaucoup refusent d'aller en centre d'hébergement. Soit parce qu'ils ont un caddie avec leur vie dedans, soit ils ont un animal. Et puis, il ne faut pas croire que les centres d'hébergement, ce sont des hôtels 3 étoiles pour gens qui sont dehors.
Mais au feu rouge, une dame tape à la fenêtre du camion de la Croix-Rouge.
Bonsoir madame.
Vous avez pris du verre, non ?
On va discuter avec vous, on va juste se garer.
Bah, en fait, on essaye de trouver une solution d'hébergement pour madame.
Là, elle tremble, donc elle n'est pas en état de résister dehors. Je vais vous demander de monter, madame.
Direction un centre d'hébergement parisien où elle va pouvoir passer quelques jours au chaud.
Un chauffard toujours recherché ce matin dans les Vosges, en fuite après son refus d'obtempérer hier à Chavlot, au nord d'Épinal. L'homme a renversé deux gendarmes. Célestin Bougère en direct avec nous. Les circonstances du drame restent à éclaircir, mais le caractère intentionnel ne fait presque aucun doute.
Oui, c'est en tout cas ce que révèlent les premiers éléments de l'enquête. Selon une source proche du dossier, deux gendarmes de la brigade motorisée de Remiremont ont voulu contrôler un véhicule vers 16h30 hier sur la RN57. Le conducteur a d'abord fait mine de s'arrêter. Un premier gendarme a été percuté lorsque le véhicule a fait une marche arrière. Le conducteur a ensuite fait demi-tour pour venir heurter le deuxième motard de la gendarmerie avant de prendre la fuite. Un acte délibéré pour blesser les gendarmes, ça ne fait aucun doute pour Axel Ronde, le porte-parole du syndicat CFTC Police.
On voit bien que l'individu a dû s'arrêter et a attendu que les motards descendent de leur moto pour leur foncer carrément dedans et prendre la fuite. Donc on voit que vous avez affaire à des individus qui n'ont absolument plus peur de rien et qui mettent, encore une fois, la vie en danger des policiers et des usagers.
Les deux gendarmes blessés ont été pris en charge pour des soins, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Leur état n'inspire pas d'inquiétude, a voulu rassurer le ministre de l'Intérieur sur X hier soir. Laurent Nunez dit condamner fermement cet acte grave qui met volontairement en danger la vie de ceux qui nous protègent. Tout est mis en œuvre, précise le ministre, pour retrouver le conducteur qui est toujours en fuite ce matin.
Et les précisions de Célestin Bougère pour RMC.
Et justement, un nouveau délit routier va entrer en vigueur ce lundi.
On vous en parlait hier sur RMC pour les grands excès de vitesse de plus de 50 km/h au-dessus de la limite. Ils seront passibles de 3 mois de prison et de 3 750 € d'amende. Une mesure de fermeté assumée hier sur notre antenne par la ministre déléguée au ministère de l'Intérieur. Mais Julie Brault, vous avez lu cette loi et une dérogation interroge. Une dérogation grâce à une simple amende.
Oui, le paiement d'une amende forfaitaire de 300 € est bien prévu par le texte de loi. Son versement peut, je cite, « éteindre l'action publique ». Concrètement, si l'auteur d'un grand excès de vitesse règle cette amende, il échappera à un jugement devant le tribunal correctionnel. Une dérogation qui peut s'appliquer à tous les mis en cause, y compris aux récidivistes, c'est-à-dire ceux qui n'en sont pas à leur premier délit routier.
Julie, ça veut donc dire qu'il suffit de payer 300 € pour ne pas être poursuivi ?
Alors attention, ce n'est pas vous qui décidez ou non de payer cette amende. Selon un avocat spécialisé dans le droit routier, seul un juge du ministère public peut vous octroyer cette dérogation. Une modalité qui nous a été confirmée par une source gouvernementale. Ce juge aura au préalable pris connaissance de votre dossier, c'est-à-dire dans quelles conditions vous avez commis un grand excès de vitesse ou encore quels sont vos antécédents judiciaires. Il pourra ensuite décider ou non de vous proposer comme sanction alternative de payer cette amende forfaitaire de 300 euros. Une dérogation qui pourrait par exemple être adressé à un conducteur dont le casier judiciaire est totalement vierge.
Julie Brault, service police-justice d'RMC. Près des quartiers nord de Marseille, à Septèmes-les-Vallons, un corps calciné retrouvé hier dans une voiture incendiée, potentiellement sur fond de trafic de drogue. Un autre homme, 45 ans, lui blessé par balle, a été pris en charge au même moment. Son pronostic vital est engagé.
8h05 sur... C'est peut-être une nouvelle attaque de loups.
En Haute-Marne, un troupeau de brebis décimées, une vingtaine retrouvées mortes dans le pâturage d'un éleveur. Selon lui, on aperçoit ce loup sur les images de vidéosurveillance. L'autopsie des bêtes doit le confirmer aujourd'hui. L'éleveur Gabriel Binon, lui, parle en tout cas d'un véritable carnage.
On fait un métier qu'on aime et puis se lever le matin, avoir des bêtes égorgées, bouffées, c'est une tristesse absolue. C'est pas un bon Noël. C'est une race qui est assez compliquée à trouver. On va pas équiper nos parcs comme une prison, avec des caméras de surveillance, en ayant peur qu'on ait une attaque de loup. Pour moi, le loup n'a pas sa place en plaine. Pour la Haute-Marne, en une année, on doit approcher les 700 brebis mortes. Et nous, on a 500 brebis, ça fait plus que notre élevage. Le loup, pour moi, il n'y a qu'un seul mot, c'est de le tuer. Alors, il y a des personnes qui n'acceptent pas quand on dit ça, mais qu'elles se mettent à notre place, puis qu'ils voient toutes leurs bêtes rétamées.
Tout est presque revenu à la normale à la Poste. Après la cyberattaque de lundi, le groupe assure qu'il restait hier quelques dysfonctionnements marginaux. Mais le suivi des colis, par exemple, est à nouveau disponible.
Les cinémas français n'ont jamais été aussi peu remplis en 28 ans.
Une année très difficile. La fréquentation a baissé de 14% par rapport à l'an dernier. Notamment car il n'y a pas vraiment eu de gros films à succès cette année. Alors Régine Chal-Ralèche, le cinéma français attend beaucoup des dernières sorties.
2025 touche à sa fin et pourtant, c'est la première fois cette année que Jonathan se rend au cinéma.
Je m'y rends parce que y a Avatar qui est sorti, donc c'était un film que j'avais déjà vu les deux premiers. Donc je voulais voir la suite. Mais après, c'est vrai que concernant les films, cette année, je me suis pas du tout renseigné, ni même intéressé.
Même constat pour son ami Thomas, pourtant habitué aux salles de cinéma.
Cette année, j'y vais un peu moins que les années précédentes. Ouais. Au niveau des films, il y en a presque aucun qui m'intéresse.
Une baisse de fréquentation qui est due, selon Jean-Baptiste Fortier, directeur des opérations de Comscore, à un déficit de films.
Les spectateurs ne sont pas venus en salle au même nombre que l'an passé. C'est surtout dû à, on va dire, aux deux films Comte de Monte Cristo et Un petit truc en plus. Qui eux, ont permis de faire 20% de fréquentation en plus dans les cinémas l'an passé.
Les professionnels restent néanmoins optimistes pour l'an prochain, avec la programmation de l'Odyssée de Christopher Nolan ou le Marsupilami de Philippe Lachaud. 2026 est l'année de tous les espoirs.
Est-ce bientôt la fin d'un an et demi d'emprisonnement pour Laurent Vinatier, ce chercheur français incarcéré en Russie pour espionnage? La Russie hier qui a annoncé avoir fait une proposition à la France. Emmanuel Macron se dit pleinement mobilisé pour sa libération. Des frappes américaines sur le Nigeria contre le groupe État islamique, des frappes meurtrières dont s'est félicité Donald Trump sur son réseau social. Il en promet de nouvelles si le groupe terroriste continue, je cite, le massacre de chrétiens.
Deuxième journée de la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations.
Le Maroc joue ce soir contre le Mali et malgré un bon début de compétition, il y a beaucoup de critiques contre le sélectionneur Walid Regragui, des critiques des supporters marocains, Nicolas Pelletier.
Oui, depuis plusieurs mois, le public marocain dans le viseur le style de jeu de la sélection nationale et le match d'ouverture de la CAN face aux Comores n'a pas arrangé la situation. Le sélectionneur Walid Regragui se défend.
Pour être dans la perfection, et je sais que le public marocain et nos supporters, et ils ont raison, on veut toujours être dans la perfection, dans la progression, c'est que le match il soit réglé à la mi-temps pour beaucoup de monde.
Après des années d'investissement du Royaume dans sa sélection, la pression est immense sur le sélectionneur marocain.
Si Walid Regragui gagne, il nous ferme tous notre bouche, quoi.
Zakaria, supporter du Maroc.
Moi, je fais partie des supporters qui sont exigeants avec notre sélectionneur. Aujourd'hui, nous, on est mitigés parce qu'on a quand même des joueurs offensifs et lui, il aime bien défendre.
Pas de petites phrases, pas de clash. Walid Regragui cherche surtout l'unité du pays pendant cette Coupe d'Afrique, selon Nasreddine Nasri, journaliste pour la Nouvelle Tribune Maroc.
Effectivement, ils sont un peu durs avec lui, mais il a mis la barre très haut avec la demi-finale en 2022 à la Coupe du Monde. Donc, il y a l'union sacrée de l'équipe nationale parce qu'ils veulent aller chercher cette Coupe d'Afrique.
Si le Maroc ne remporte pas cette CAN 2025, Walid Regragui a déjà laissé entendre que son avenir s'écrira loin de la sélection nationale.
Maroc-Mali, match à vivre sur RMC, radio officielle de cette CAN, coup d'envoi à 21h.
C'était le journal de Clara Gabillet à 8h10 sur RMC. Merci Clara, on part tout de suite au 32-16. On va accueillir Thierry qui nous appelle depuis la Charente, La Rochefoucauld, c'est ça? Bonjour Thierry.
Bonjour Charles, bonjour à tout le monde.
Comment ça va Thierry ce matin?
Très bien.
Vous bossez là, 26 décembre?
Ouais, je suis un petit peu au bureau, je trie un peu des dossiers et puis je travaille un petit peu, oui.
Oui,
tranquille.
Voilà, tranquille, version 26 décembre. Mais Thierry, ce qui vous a fait réagir ce matin, justement, c'est au lendemain de Noël, ces chiffres records de revente de cadeaux. On avait tout à l'heure une des responsables du site Rakuten qui disait on a déjà eu 400 000 annonces dès hier midi, on en attend 1 million d'ici le mois de janvier, il y en a de plus en plus chaque année. Les Français revendent de plus en plus leurs cadeaux. Est-ce que c'est votre cas, Thierry? Est-ce que, si vous savez, tiens, si vos proches ont déjà revendu les cadeaux que vous leur avez offerts?
Alors non, je ne sais pas, et puis je préfère même pas le savoir. Je serais déçu, et puis c'est quelque chose que je peux même pas comprendre, dans le sens où quand vous faites un cadeau, c'est que déjà vous faites un cadeau ce qui vous fait plaisir, vous avez envie de faire plaisir à la personne, et vous la connaissez à minima. Vous savez ce qui va lui faire plaisir. Vous achetez pas un cadeau pour acheter un cadeau.
Non, mais parfois la personne l'a en double, etc.
Et ben elle le dit, puis on va le changer.
Ah oui, vaut mieux, voilà, j'ai encore le ticket, t'inquiète pas, je vais le changer.
Je m'imagine aller sur Internet, sur le site, par exemple, de Rakuten que vous avez dit tout à l'heure, la responsable, et puis dire, mais c'est le cadeau que je vais acheter, il me le revend.
Bah oui, mais si au fond il se fait plaisir, si il récupère des sous pour s'offrir autre chose, est-ce que quelque part l'idée du cadeau c'est pas de faire plaisir?
Bah non. Si, faire plaisir, mais dans ce cas-là, l'année suivante, je lui donnerai le montant d'argent de ce qu'il a revendu sur Internet, alors. Comme ça, on sera content.
Bah, vous savez quoi, Thierry, ça se fait de plus en plus. Les Français, maintenant, s'offrent des cartes cadeaux, par exemple.
Vous me voyez aller donner 50 balles à mon frère?
Bah, une carte cadeau de 50 euros.
Non. Ouais, carte cadeau, là, je suis d'accord. Carte cadeau, à la limite.
C'est le bon compromis. Ouais, comme ça, il achète ce qu'il veut ensuite.
Vous avez raison, Charles, dans le sens où entre adultes, souvent, ils ont tout. Qu'est-ce qu'on va leur acheter encore?
Je vous dis ça parce que je viens de faire une carte cadeau pour ma sœur. C'est pour ça que je vous donne mon tips, Thierry. Voilà. C'est comme ça chez les maniens.
Non, mais après, il y a aussi, là où on peut être gêné, c'est sur, parce qu'une carte cadeau aussi, vous affichez la valeur. Donc, des fois, on est un petit peu gêné parce qu'il y en a, mettre 50 euros, ça fait mal, quoi.
Oui, c'est vrai. Bah, bon, là, donc, ça a été âprement négocié, mais c'est vrai que ça oblige à la transparence.
Ouais, sur le fond du truc, c'est vrai que ça, moi je suis quelqu'un de cash, donc si j'ai quelque chose à dire, je le dis en face, donc si le cadeau plaît pas, viens me le dire, et puis pas de souci, on va trouver autre chose.
Oui, mais vous-même, Thierry, en déballant vos cadeaux, ça vous est jamais arrivé de vous dire, ah ça c'est pas terrible, mais je vais pas oser lui dire, et puis finalement ça dort au fond d'un placard?
Eh ben franchement, je vais être honnête avec vous. Eh ben non, parce que alors ça va faire pathos, ce que je veux dire, mais c'est la réalité. Rien que le fait que la personne ait pensé à moi et qu'elle m'ait offert un cadeau, ça me touche énormément. Donc de voir le présent qu'elle m'a donné chaque fois, je pense à cette personne. Donc tant pis si c'est un peu kitsch et tout, ça sera quand même sur une étagère dans mon bureau, chez moi, mais pas au fond d'un tiroir. Ça sort de question. C'est du respect.
Vous avez le droit d'être kitsch, Thierry. Vous avez bien fait de venir témoigner. Ce matin, c'est intéressant parce que oui, on a ces chiffres qui nous montrent qu'il y a de plus en plus de reventes, mais pour certains, c'est encore tabou, c'est encore choquant comme vous, Thierry. Je vous remercie d'être venu témoigner de bonheur au 32-16 depuis la Charente. Vous faites comme Thierry d'ailleurs, réagissez ce matin, le 32-16, le WhatsApp aussi de l'émission. Vous connaissez le numéro d'RMC, c'est le 0612 424 424. Mais tout de suite, c'est l'heure de parler gros sous.
RMC, Apolline Matin,
le chiffre d'affaires
avec Pierre Rondeau. Bonjour Pierre. Et tiens, on parlait de la revente des cadeaux. Au pied du sapin, certains ont peut-être reçu un chèque, des billets, un don d'argent en tout cas au sein de la famille. Et on se pose la question, est-ce qu'il faut déclarer ces sommes aux impôts?
Grande question, hein, parce que l'argent reçu de mamie ou tati doit être déclaré auprès des autorités fiscales? Parce que selon un sondage réalisé par le site Galéon, 67% des Français comptaient offrir de l'argent à leurs proches à Noël. Eh bien, concrètement, aucune déclaration n'est obligatoire auprès des impôts pour ces cadeaux faits entre proches. D'ailleurs, cela s'applique ailleurs qu'à Noël. Les cadeaux offerts lors d'occasions particulières, comme un anniversaire, un mariage ou l'obtention d'un diplôme, sont aussi concernés. Vous n'avez rien à déclarer.
Peu importe le montant, formidable. L'administration fiscale n'en saura jamais rien quand on se donne de l'argent, même beaucoup d'argent entre proches.
Heureusement, ma chronique ne s'arrête pas maintenant. Donc forcément,
il y a toujours un mais,
Charles. Parce que pour le site des impôts, il est clair, la valeur du don doit rester une valeur raisonnable. Autrement dit, vous pouvez donner une enveloppe de billets du moment que le montant n'est pas inhabituel.
Alors attendez, ça veut dire quoi inhabituel? Ça veut dire quoi raisonnable? On veut des chiffres.
Le calcul est posé directement sur le site, c'est très simple. Les montants dits inhabituels concernent uniquement les sommes versées supérieures à 2,5% des revenus annuels du donateur. Donc par exemple, si l'on prend le revenu annuel moyen en France de 32 791 euros, on ne pourra pas donner plus de 800 euros si on ne veut pas le déclarer aux impôts. Et pareil côté receveur, à partir de 2026, hein, c'est la nouvelle règle, il faudra déclarer sur Internet ses dons reçus. Les mêmes règles s'appliquent pour le donateur. Les petits dons reçus à Noël ou lors de grandes occasions ne sont pas concernés, mais les dons dits importants, inhabituels, oui, ah,
mais il faudra les déclarer. C'est intéressant, si j'ai 30 000 euros de revenus, mais que mes proches me donnent en tout 1 000 euros, en 2026, je vais devoir le déclarer dans mes revenus aux impôts. Et puis Pierre, on parle aussi beaucoup là ce matin de la revente de cadeaux de Noël. Si cette année, je me suis fait quelques centaines, quelques milliers d'euros pour certains sur Le Bon Coin, sur Vinted, en revendant des cadeaux, est-ce que là aussi, je dois le déclarer?
Encore une fois, ça sera par rapport à la valeur et le montant inhabituel.
Alors, à partir de combien?
Alors, concrètement, si vous vendez vos biens pour une valeur de plus de 5000 euros hors meubles, électroménagers ou automobiles, oui, il faudra le déclarer et vous serez alors soumis au régime, attention, d'imposition des plus-values de cession de biens meubles au taux de 19%.
Ah oui.
Et vous devrez vous acquitter de cet impôt dans le mois de la revente. Oui, 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 le fisc est toujours là.
Ça paraît beaucoup, oui. Le fisc, oui, il y a des choses qui sont sûres dans la vie. La mort et les impôts. Et oui, dans 5000 euros, ça paraît énorme comme ça, mais en même temps, moi, je connais des experts de Vinted, du Bon Coin, etc., qui peuvent peut-être frôler cette somme qu'il faut donc déclarer. Merci beaucoup, Pierre Rondeau. On vous réécoute quand on veut, évidemment. Tiens, si vous n'avez pas eu le temps de faire tous les calculs, là, des dons, des pourcentages, vous réécoutez Pierre Rondeau quand vous voulez en podcast sur l'appli RMC. Il est 8h16.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant sur RMC, une double peine fiscale. C'est ce que vous dénoncez, Anthony Brun. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous présidez l'Union Générale des Viticulteurs de Cognac. Des viticulteurs qui, lorsqu'ils sont victimes de vol, doivent quand même payer des dizaines de milliers d'euros de taxes sur des marchandises qui leur ont été volées. Vous témoignez tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Charles Magnin.
8h19, bon réveil sur RMC et RMC Story. On part tout de suite dans le sud-ouest où les producteurs de cognac doivent faire face à une double menace, celle des vols de leurs marchandises et celle des taxes sur les produits volés. Bonjour Anthony Brun.
Bonjour.
Vous présidez l'Union Générale des Viticulteurs de Cognac et vous alertez ce matin sur RMC. Lorsqu'un viticulteur de cognac se fait voler sa marchandise, il doit quand même payer des taxes dessus, c'est ça ?
C'est ça. Et c'est pas valable uniquement pour les viticulteurs de cognac, c'est valable pour tous les acteurs des vins et spiritueux. Aujourd'hui, c'est une taxation qui s'applique quand on est victime d'un vol. On est obligé de payer les droits d'accises qui auraient été prélevés par l'État.
Oui, sauf que ces vols se sont multipliés ces derniers mois, ces dernières années. Il y a eu des exemples très concrets ces dernières semaines.
Sur ce dernier mois, on a eu des vols chez des viticulteurs directement dans les chais, des volumes très importants. On a eu des usurpations d'identité chez les transporteurs qui sont venus avec des chauffeurs qui sont venus se faire passer pour les transporteurs, donc chez les négociants qui vendaient directement, des camions entiers qui ont été volés. Et systématiquement, en plus d'avoir la perte de marchandises, on se retrouve avec la situation où les taxes sont réclamées. Et quand sur nos catégories de produits, les taxes sont très importantes, ça peut représenter des montants qui dépassent les 100 000 euros sur des structures et qui les mettent directement en péril à ce moment-là.
Oui, des structures qui doivent donc payer des taxes sur des marchandises volées. Il faut expliquer l'objectif de cette règle, de ces taxes, c'est quoi? C'est d'éviter les fraudes, d'éviter les bouteilles non déclarées, quoi.
Les taxations sur les alcools sont prévues, voilà, dans le cadre des mises sur le marché. Forcément, sur les vins, sur les bières, sur les alcools, elles sont plus élevées sur les alcools type cognac. C'est par rapport aux questions de santé et autres que ces taxes sont justifiées. Mais là, quand on a été victime d'un vol, elles sont aussi réclamées à la personne qui a été volée. C'est ça qu'on trouve complètement illogique.
Les services des douanes interrogés par nos confrères de Sud-Ouest disent c'est la règle européenne, c'est comme ça depuis 92, il n'y a pas de raison de changer la règle aujourd'hui, Anthony Brun.
Écoutez, il y a 10 ans, c'était pas considéré comme ça. Aujourd'hui, il s'appuie derrière une petite phrase qui dit au niveau de l'Union européenne, dans le cadre d'un cas de force majeure, la taxe peut être évitée. Si un vol n'est pas un cas de force majeure, je ne sais pas ce qui peut en mettre un.
Donc c'est ce que vous dénoncez, c'est le fisc, les douanes trop pointilleux, qui ne reconnaissent pas en tout cas le préjudice de ces producteurs de cognac. Vous avez eu des contacts avec les autorités là ces derniers jours ?
On échange régulièrement avec les autorités sur le sujet, et forcément dans un contexte économique plus compliqué, avec une recrudescence des vols, on a des situations de viticulteurs qui sont à deux doigts de mettre la clé sous la porte parce que ces taxations sont réclamées. Faut savoir que souvent les montants sont bien supérieurs à la valeur de l'eau de vie que peut vendre le viticulteur. Donc à ce niveau-là, c'est des choses qui sont pas acceptables.
On va surveiller la réponse des autorités face à ces vols et donc cette double peine avec les taxes qui viennent ensuite s'y ajouter sur les marchandises volées. On verra la réponse des autorités. Merci Anthony Brun d'être venu alerter ce matin en direct sur RMC. Je rappelle que vous présidez l'Union Générale des Viticulteurs de Cognac. Merci encore une fois d'avoir été en direct à 8h22 sur RMC. C'est l'heure de retrouver Arnaud Demange. Vous le savez, Arnaud a pris quelques jours de repos. Mais en attendant, on retrouve le meilleur d'Arnaud Demange. Tiens, qui est revenu sur des élections locales un peu particulière en Namibie.
Et oui, bonjour. Bonjour. Je suis un peu votre protoxyde d'azote du matin. On va rigoler. Ouais. Tiens, Apolline.
En moins dangereux.
Est-ce que vous...
moins dangereux.
En moins dangereux, ouais. Très bon pour la santé. Apolline, est-ce que vous voulez voyager ce matin? J'ai envie de vous offrir un beau voyage.
Bien sûr.
Je vous emmène assister à une campagne électorale locale en Namibie, où le grand favori pour les élections du jour s'appelle Adolf Hitler Unona.
Mais non.
Si. Rien à voir, évidemment,
non,
rien à voir
sûr,
avec Jean-Michel Unona, qui est mon charcutier, des fois on confond le nom prête à confusion. Donc là, c'est Adolf Hitler Unona. Il s'appelle donc comme l'inventeur des marchés de Noël. C'est Arthur Chevalier qui expliquait ça tout à l'heure.
Référence à la très belle chronique d'Arthur.
Très belle chronique d'Arthur et ancien dictateur nazi. Le vrai Adolf Hitler doit être tellement fier qu'un noir africain porte son nom. Alors, en vrai, c'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Stéphane Plaza Unona, mais il a préféré changer pour pas être associé au bad buzz. Alors, Adolf Hitler Unona a expliqué « Je comprends pas très bien pourquoi mon père m'a appelé comme ça. Il a pas dû bien comprendre ce que représentait Hitler. » Ça veut dire qu'on peut entendre parler d'Hitler
vaguement,
sans bien comprendre ce que ça représente. Vaguement, ouais, vaguement. Non, mais c'est plus le peintre, en fait. Il faut dissocier l'homme de l'artiste au bout d'un moment. Donc, on souhaite une bonne et belle grande carrière politique à Adolf Hitler. Peut-être président de la Namibie un jour. Ce serait formidable, son premier voyage diplomatique en Israël. Qu'est-ce qu'on va se marrer. Le douanier, il va halluciner. Mais il faut rigoler, parce que l'actualité n'est pas drôle, Apolline. Rendez-vous compte, François Hollande a été cambriolé.
Oui.
François Hollande et Julie Gayet, nos Brad Pitt et Angelina français à nous. Notre couple glamour, c'est nos Kennedy et Marilyn de chez Shein. Alors là où c'est con, c'est que sa résidence, comme celle de tous les anciens présidents, est surveillée par la police 24 heures sur 24, sauf que la présence des policiers gênait les voisins. Du coup, les policiers avaient été déplacés à 300 mètres de la maison.
Ouais.
Effectivement, c'est moins pratique,
c'est
pour
moins
surveiller
bien
ce qui se passe. Par contre, le voisin du bout de la rue, lui, il n'a pas été cambriolé. Comme quoi, c'est efficace. Qu'est-ce que tu veux piquer à François Hollande? Ses idées, pouf, ses fringues. Qui va voler les fringues de François Hollande? Xavier Bertrand, mais à part ça. Sinon, il y a la bouffe.
Tu voles le contenu.
Sinon, il y a la bouffe.
Ouais,
Hollande, il est rentré chez lui, il fait « Oh les salauds, ils ont volé le restant de pâté. » Non, non, chouchou, tu l'as mangé hier soir. Ah oui, c'est vrai. Pardon. C'est vrai. Alors, j'ai un copain caméraman qui m'a dit hier, je vous raconte une histoire vraie, hein, c'est une vraie anecdote. Il m'a dit, j'ai retourné un reportage chez François Hollande. Il y a quand même un truc précieux chez lui. Il a tous les départements sur le frigo.
Ah, il a mangé assez
les aimants, de... ouais, les aimants qu'il y a dans les cordons bleus, il a la collection complète, sachant qu'il y a 101 départements. Il a dû bouffer entre 2 et 3 000 cordons bleus, le pauvre. Mais ça valait le coup. Alors, est-ce que les bandits sont repartis avec la collection? Ou alors, plus vicieux, ils sont repartis juste avec le Loir-et-Cher. Ils ont pris un trou pour faire un trou au milieu de la carte. Hollande, il est rentré chez lui, il a fait « Oh non, non! Julie, recommande des cordons bleus !» Quelle abnégation pour rien. C'est ça, un président.
Arnaud, la chaîne info de la galaxie Bolloré, CNews, a lancé une déclinaison, ça s'appelle CNews Prime.
Oui, tous les cadres ont fait une réunion chez Vincent Bolloré, qui a dit « On va lancer un nouveau CNews, un CNews 2, et je serai le maître du monde !» Mais en attendant, je vais me faire des crêpes. Bon, en vrai, il a réuni ses proches dans son manoir breton. Bon, Yann, Erwan, Gwenaël, encore Yann, Swazik, l'autre Yann, Yann numéro 3, vous êtes rassemblés parce que j'ai une idée. Si on lançait un nouveau CNews,
super idée, patron. Qu'est-ce qu'on mettrait dedans? Des vraies infos?
Comment? Qu'est-ce que tu as dit, Yann? Insolent! Qu'on le jette dans l'oubliette des gauchistes! Il rejoindra Laurent Geoffrin.
J'ai peur que chez Canal, ils déclinent la marque un peu trop, quoi. Dans 5 ans, on pourra zapper sur CNews Cinéma.
Et ce soir, sur CNews Cinéma, un drame, celui d'un homme handicapé et vulnérable, pris en otage par un Malien sans papier. C'est Intouchable et c'est à 21h sur CNews Cinéma. Demain, vous retrouverez l'histoire réjouissante de deux guerriers médiévaux français qui chassent à grands coups d'épée les sarrasins qui infiltrent le service public. Ce sera Les Visiteurs sur CNews Cinéma. Et vendredi, Louis de Funès et Bourvil dans le rôle de deux terroristes antipatriotes qui s'attaquent lâchement à nos amis allemands et au gouvernement légitime du glorieux maréchal qui a sauvé tant de juifs. C'est la grande vadrouille et c'est sur CNews Cinéma.
Arnaud Demange qu'on retrouve à tout moment évidemment en podcast sur RMC, rmc.fr. Dans un instant, la météo, le journal de 8h30 et puis ensuite on va parler du plan grand froid déclenché dans une vingtaine de départements, des températures négatives la nuit. Est-ce qu'on protège suffisamment les plus démunis? Le président de Médecins du Monde est avec nous en direct à 8h40 sur RMC. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Vous êtes bien sur RMC pour toute l'info, toute l'actu en direct. Votre journal présenté par Rachel Saadodine. Bonjour Rachel.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Un sans domicile fixe est mort le soir du réveillon à Reims. Une vingtaine de départements déclenchent le plan grand froid pour éviter d'autres drames. L'otage français en Russie, Laurent Vinatier, sera-t-il bientôt libéré? Moscou dit en tout cas avoir fait une proposition à l'Elysée. Et puis, 3 Français sur 10 affirment ne pas avoir de soucis avec la revente de cadeaux de Noël. Un phénomène de plus en plus décomplexé, selon la plateforme Rakuten.
Le plan grand froid déclenché dans près de 20 départements du nord du pays.
Grand Est, Bretagne, Normandie, Hauts-de-France. Ce plan permet de débloquer de nouvelles places d'hébergement d'urgence pour les sans domicile fixe qui souffrent des températures négatives. À Reims, un SDF de 35 ans est mort dans la rue dans la nuit de mercredi à jeudi. Et d'après le parquet, le froid serait bel et bien en cause. Un drame pour Zaya Nouri, c'est la fondatrice de la Maraude citoyenne rémoise. Et elle connaissait bien le disparu.
La tristesse, la colère, l'incompréhension. Est-ce qu'il a trop bu, il s'est endormi, il s'est pas réveillé? Je pense que le froid l'a achevé. Parce que le vent était glacial. Je pense qu'au niveau du ressenti, on devait avoir au moins du moins 5. Rester figé comme ça au sol, 24 décembre, tout seul. Faut être costaud pour le supporter en restant dehors. Personne ne peut supporter ça. Et puis voilà, il a pas vu le froid arriver.
Un chauffeur activement recherché dans les Vosges après un refus d'obtempérer. Il a percuté 2 gendarmes hier à Chavelot. Un acte délibéré d'après les informations de BFM TV. Le pronostic vital des gendarmes n'est pas engagé.
RMC 8h32, les agriculteurs encore mobilisés dans le sud-ouest.
Mais ailleurs, il ne reste plus beaucoup de blocages. 23 au total dans le pays contre 110 la semaine dernière. Les agriculteurs mobilisés contre la gestion de la dermatose nodulaire bovine. Ils ont notamment levé le camp à Tarascon-sur-Ariège et après plus de 10 jours de blocage, l'heure est au nettoyage et à l'évaluation des dégâts, Lou Garnier.
Presque comme si de rien n'était. 4 jours après la levée du blocage de Tarascon-sur-Ariège, tout a été nettoyé, mais il reste des traces. Émilie Barom est sous-préfète de l'arrondissement de Pamiers en Ariège.
Il y a des dégâts. Vous avez des panneaux arrachés, vous avez des voiries abîmées, voire brûlées.
Sans compter des déchets, notamment déversés devant la préfecture de l'Ariège par les agriculteurs dans la nuit de dimanche à lundi.
On est à plusieurs centaines de tonnes. On a des déchets qui contenaient notamment de l'amiante, des hydrocarbures, du tout venant béton, du bois, du fumier, des encombrants, des pneus. On est sur des coûts de plusieurs centaines de milliers d'euros.
Une facture salée que va devoir payer l'État. Christophe Goisé est éleveur bovin et porte-parole de la Confédération paysanne de l'Ariège. Il était sur le barrage, alors il reconnaît des dégradations, mais ne se sent pas responsable.
Quand vous poussez les gens à bout, il y a forcément des débordements. Donc moi, je remets la responsabilité intégralement sur les épaules de l'État. Si l'État avait suivi la voie de dialogue, il n'y aurait pas eu tout ça derrière.
Le barrage a été levé pour ne pas pénaliser les commerçants, selon lui, mais pas de trêve pour autant. Il l'affirme, de nouvelles actions sont possibles.
La famille de Laurent Vinatier espère sa libération pour les fêtes. La Russie annonce avoir fait une proposition à la France concernant le sort de ce chercheur français retenu depuis 1 an et demi, accusé d'espionnage. Et Thomas Bécart, les proches de l'otage comptent maintenant sur une intervention d'Emmanuel Macron.
Oui, l'Élysée assure être pleinement mobilisé pour obtenir la libération de Laurent Vinatier. Il faut dire que l'ouverture inattendue du Kremlin hier fait souffler un vent d'optimisme.
C'est positif. Un vrai espoir cette fois.
La mère de Laurent Vinatier, Brigitte, imagine même une libération dans un futur proche.
Dans les jours à venir ou dans les semaines ou le mois à venir, ce serait déjà tellement merveilleux, je me vois déjà aller l'attendre sur le tarmac de l'aéroport et le voir descendre.
Un espoir d'autant plus fort qu'Emmanuel Macron, il y a quelques jours, estimait qu'il allait redevenir utile de parler à Vladimir Poutine. C'est tout ce qu'espère maître Frédéric Belot, avocat de la famille Vinatier.
Nous espérons que le président Macron arrivera avec le président Poutine à évoquer le cas de Laurent Vinatier et qu'une issue favorable sera trouvée.
Avec, selon lui, plusieurs options sur la table, l'abandon des poursuites judiciaires, un transfèrement sur le sol français ou une grâce présidentielle. Dans les trois cas, une intervention directe de Vladimir Poutine.
Vladimir Zelensky va rencontrer Donald Trump, c'est en tout cas ce qu'affirme le président ukrainien sur les réseaux sociaux ce matin. Pas de date pour le moment, mais Volodymyr Zelensky donc est formel. Beaucoup de choses peuvent être décidées avant le nouvel an, voilà ce qu'il écrit. Les États-Unis négocient avec l'Ukraine et la Russie pour tenter de mettre fin à la guerre. Les services de la Poste sont presque tous de nouveau opérationnels. Le groupe fait état d'un quasi-retour à la normale après la cyberattaque revendiquée par des hackers pro-russes lundi.
8h35 sur RMC et ce chiffre, près de 400 000 annonces de revente de cadeaux déjà déposées hier midi sur la plateforme Rakuten.
Et oui, à peine Noël passé, 3 Français sur 10 se disent prêts à revendre les présents qu'ils ont reçus. Une démarche de moins en moins taboue selon Thérèse Duhameau, directrice relations chez clients chez Rakuten.
On revend des produits culturels, livres, DVD, on revend des produits high-tech. C'est un geste de plus en plus décomplexé, de plus en plus accepté. La première motivation, c'est d'avoir du pouvoir d'achat, donc récupérer de l'argent. En moyenne, les gens qui ont revendu leur cadeau de Noël en 2024 ont récupéré 100 euros. Mais certaines personnes ont récupéré plus que 300 euros. Donc c'est effectivement, c'est un budget important pour réinvestir dans quelque chose qui nous fait vraiment plaisir.
Alors que certains pensent déjà à la revente, d'autres ont encore des cadeaux à offrir et à recevoir. Si vous avez une famille élargie, recomposée, vous savez ce que c'est que de fêter Noël jusqu'au 26, 27, 28, oh oui. N'est-ce pas Charles ?
29 mois.
29 même. Un véritable marathon des fêtes, Antonin Audion.
Parmi les marathoniens, il y a bien sûr les membres des familles recomposées comme Paul. Il enchaîne les repas de Noël.
Là, c'est mon troisième là actuellement. Père, mère et beau-père, donc trois familles, donc trois Noël.
Mounir vit les fêtes au pas de course. Il est venu voir sa mère à Tours avant de rendre visite à ses enfants à La Rochelle et à l'île de Ré.
Les familles sont dispersées et donc si on veut retrouver tout le monde, une année sur deux, les gens se regroupent. L'année d'après, bah, il faut aller chez les uns, chez les autres. Voilà. Bah, ça fait partie de la vie, c'est aussi, ça permet de voir du pays.
Une période qui n'est pas de tout repos pour Xavier, sorti courir entre les cadeaux et le repas.
On fait tour de France pour voir toute la famille.
Et pourquoi vous vous sortez courir aujourd'hui?
C'est pour mieux manger ce midi. Pour rester en forme et pour profiter.
Et qui dit marathon de Noël dit une pluie de cadeaux pour les enfants de Mathilde.
Bah, les cadeaux, on essaie de limiter pour pas qu'il y ait non plus une profusion, mais oui, il y en a beaucoup. Ouais. On demande aux personnes aussi de voilà de pas faire 3 cadeaux par enfant. Quoi.
Une course effrénée qui pourrait bien durer jusqu'au nouvel an.
Un reportage RMC signé Antonin Audion.
Et un journal signé Rachel Saadodine. Merci beaucoup Rachel pour ce journal à 8h37 sur RMC. On part au 32-16, on va accueillir Anjé qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Anjé.
Bonjour, comment allez-vous Charles ?
Ben moi ça va très bien, joyeux Noël à vous Anjé, on peut encore
joyeux
se souhaiter
Noël également.
Le 26 décembre. Et puis d'autant qu'on fête Noël pendant encore plusieurs jours, on vient d'en parler dans les grandes familles. Mais ce qui vous fait réagir ce matin Anjé, vous, c'est la question de la fréquentation du cinéma. On en a beaucoup parlé, année catastrophique pour le cinéma, pour les salles de cinéma en France. Il manque 25 millions de spectateurs par rapport à l'an dernier, beaucoup moins de places vendues. Est-ce que vous êtes beaucoup allé au cinéma cette année, Anjé ?
Alors écoutez, cette année, pas vraiment, et les années précédentes également, enfin je vais beaucoup moins au cinéma. Alors déjà, j'y vais moins pour moi, parce que bon, en ce moment, je suis célibataire, donc déjà, y aller tout seul, c'est pas top.
Oh, ça peut, mais, ça se fait, hein.
Oui, ça se fait, mais moi, je suis pas,
okay, sauf
à
pas
la limite, j'y suis allé peut-être quand il y avait le dernier Mario qui était sorti, parce que je suis un grand fan, donc j'y suis allé. Mais sinon, hormis ça, tout seul, non, mais sinon, j'y vais avec mes enfants, tout simplement. Là, je suis allé voir Zootopie parce qu'il était sorti et que j'avais vu le premier avec la petite, elle était contente. Donc là, on est parti voir le deuxième. Et pareil, on est parti voir Dragon, qui était sorti également cette année. Mais honnêtement, après, j'ai pas vraiment de souvenir d'y être allé avant. temps. Et ce qui me freine, ben c'est le, enfin voilà, c'est, je pense que c'est à peu près comme tout le monde. Il y a deux facteurs. Il y a de un le prix des places, ah oui, qui est alors. C'est vrai que en moyenne, alors c'est vrai que la moyenne dit c'est 7,50, je crois, votre intervenant tout à l'heure.
Oui.
Mais moi de mon côté, je suis dans le Val-de-Marne, j'ai des UGC à côté, même un cinéma de quartier, c'est plus aux alentours des UGC, c'est plus 15, et peut-être le cinéma de quartier c'était 12-13, je trouve très cher.
Alors le chiffre de 7,50€, la moyenne des places, ça prend en compte les places, les tarifs réduits pour les enfants, ça prend en compte les CE, etc. On peut avoir des places à tarifs réduits, mais ça reste cher, ça reste une sortie aussi quand on est en famille, où il faut souvent rajouter un pop-corn, une boisson, ça coûte, c'est une vraie sortie qui coûte cher, qui plombe le pouvoir d'achat, et donc on y va, j'ai bien compris, Angé, uniquement pour les sorties événements, pour faire plaisir aux enfants, pour les gros films, mais de moins en moins régulièrement et encore moins seul, j'ai bien compris. Merci beaucoup Angé pour votre témoignage, ça nous éclaire. Ce matin, on a tous les types, on a ceux qui sont accros au cinéma, on a eu des abonnés tout à l'heure qui y vont quasiment toutes les semaines, et puis ceux qui reconnaissent comme vous Angé qu'ils y vont de moins en moins, qui attendent les grosses sorties pour une sortie en famille, une sortie événement. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je vous continue à réagir évidemment à tout moment sur RMC au 32-16. Il est 8h40. Et on passe au choix de la rédaction. Ce matin, on part sur les pistes de ski pour parler cigarettes. Et c'est avec vous, Vincent Chevalier. Bonjour, Vincent.
Bonjour Charles.
Depuis le 1er juillet dernier, l'interdiction de fumer, on le sait, s'est élargie à des nouveaux lieux publics, hein, les parcs et les jardins, près des écoles, sur les plages, on en a beaucoup parlé, mais ça concerne aussi désormais les pistes de ski. Un changement diversement accueilli par les skieurs que vous avez rencontrés, Vincent.
Oui, je vous emmène à Champrousse, une station iséroise à quelques kilomètres de Grenoble, perchée à 1700 mètres d'altitude. Un grand soleil fait le bonheur des skieurs, fumeurs ou non. Ils voient souvent d'un bon œil cette nouvelle interdiction.
C'est quelque chose de plutôt bien, notamment sur les télésièges ou pendant une descente en ski. Je vois pas vraiment l'utilité de fumer sa cigarette.
Pour les pistes, pour l'écologie, et au moins on garde les pistes propres. Donc je trouve ça vraiment important et je trouve que c'est une bonne décision d'avoir fait ça.
Mais tous ne sont pas ravis. Florian, par exemple, avait l'habitude de faire une petite pause clope au milieu des pistes.
C'est quand même abusé quoi. C'est une... ouais, on a atteint un peu une liberté, on est sur un domaine, on est en plein air, on n'a plus le droit de fumer, c'est quand même dommage.
Il faut donc revoir ses habitudes sous peine d'amende, 135€ en cas d'infraction, 250€ si récidive, un peu abusé selon Guillaume.
Faut pas non plus que ce soit genre la chasse à l'amende, etc. Après avoir commencé à appliquer aussi, est-ce que c'est les pisteurs qui mettent les amendes, je sais pas, les gens de la station.
Et ce sont bien les gendarmes en montagne qui sont chargés de vérifier la bonne application de la loi.
Mais Vincent, même avant cette loi, la cigarette n'était déjà pas forcément la bienvenue dans les stations de ski.
Effectivement, fumer était interdit à certains endroits. Christopher Hardy, le directeur de l'office de tourisme de Champrousse, nous détaille les changements.
C'était déjà pas toléré dans les remontées mécaniques, dans les télécabines par exemple, dans les queues des remontées mécaniques. Là, c'est carrément interdiction de la cigarette sur le domaine d'exploitation, c'est-à-dire sur les pistes, sur les remontées mécaniques, même les télésièges, tire-fesses, dans les queues des remontées mécaniques.
Alors, quelques précisions, le vapotage reste autorisé, sauf dans les lieux clos, et pour la cigarette, elle est toujours tolérée soit sur les terrasses des restaurants d'altitude, soit en dehors du domaine de ski, sur les parkings par exemple. Une bonne nouvelle pour la santé publique, mais aussi pour l'environnement, selon Christopher Hardy.
On retrouvait beaucoup trop de mégots de cigarettes quand on a fait les nettoyages de fin de saison. On a retrouvé jusqu'à 1,6 kg de mégots l'année dernière en ramassant à la fin de la saison. Ça, c'est sous les télésièges ou autres.
Alors charge désormais, on l'a compris, aux stations de rappeler cette interdiction de fumer. Et pour ça, Vincent, l'association France Montagne met à disposition une campagne de communication.
Allongez votre espérance de ski, clope de fin, on vous tend des perches pour arrêter. L'association mise sur l'humour avec des petites phrases choc. Vous devriez les voir dans pas mal de stations cet hiver. Vincent Jay, médaillé olympique de biathlon et désormais directeur général de France Montagne.
Oui, le sujet est important à double titre. Un, parce que ça s'intègre dans un plan Génération sans tabac, mais aussi parce que on le sait que sur en bas des remontées mécaniques, il y a quand même ces mégots restent plus de 10 ans dans la nature quand ils sont pas ramassés, ça pollue, c'est 500 litres d'eau un mégot. On a utilisé le ton un petit peu de l'humour, du décalé, pour que le message passe aussi mieux, ou en tout cas soit plus absorbable par les clients et les touristes qui venaient dans nos stations, dans nos vallées.
Les mégots, toujours la première source de déchets en montagne. L'année dernière, 58 600 mégots ramassés lors d'une opération spéciale par Mountain Riders. L'association s'est fixé un objectif, zéro déchet sauvage en montagne d'ici 2030.
Merci beaucoup Vincent Chevalier, correspondant RMC dans la région lyonnaise. Le choix de la rédaction à retrouver, à réécouter quand vous voulez, évidemment, en podcast sur l'appli RMC. Il est 8h43.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Le froid s'est installé partout en France et le froid tue. Nouvelle illustration lors de la nuit du réveillon avec ce SDF de 35 ans retrouvé mort dans la rue à Reims. D'ailleurs, le plan grand froid a été déclenché dans une vingtaine de départements. Bonjour Jean-François Corti.
Bonjour.
Vous êtes le président de Médecins du Monde. Est-ce que ces mesures, ce plan grand froid est suffisant? Est-ce qu'on en fait assez pour protéger les plus démunis face au froid notamment? Je vous pose toutes les questions dans un instant sur RMC.
RMC. Jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Charles Magnin.
9h moins le quart, vous êtes bien sur RMC à la radio, RMC Story, à la télé, le canal 23 de la TNT. On va tout de suite parler du froid qui s'est installé sur une large partie du pays, un froid dont souffrent particulièrement les plus précaires. Bonjour Jean-François Corti.
Bonjour.
Médecin, président de Médecins du Monde. Le plan grand froid a été déclenché dans une vingtaine de départements, ce qui veut dire concrètement davantage de places d'hébergement, des maraudes renforcées. Est-ce que c'est suffisant Jean-François Corti?
Écoutez, les chiffres sont parlants et nous font comprendre l'urgence de la situation. Je vais rappeler le constat, c'est près de 350 000 personnes qui vivent dans la rue chaque année. C'est 4 millions de personnes qui sont mal logées. Et de fait, depuis 10 ans, c'est une augmentation de 150%. Donc on est dans une situation extrêmement grave et c'est près de 900 morts chaque année dans la rue. Donc aujourd'hui, cette annonce, elle confirme le fait que les places et les dispositifs classiques sont insuffisants. De notre point de vue, ils devraient être ouverts toute l'année, parce que je rappelle que on meurt autant dans la rue en hiver qu'en été. Et donc, ces dispositifs qui vont, on l'espère, s'ouvrir en plus grand nombre, des gymnases, plus de moyens pour le 115 notamment, les dispositifs d'appel et les plateformes, en fait, ce nombre devrait être la norme durant toute l'année. Cette augmentation de places aujourd'hui, elle est
insuffisante. On attend que les températures baissent pour enfin ouvrir les places dont on aurait besoin le reste de l'année?
Oui, en fait, ce qu'on constate sur nos interventions, et Médecins du Monde, c'est près d'une trentaine de projets en France, c'est qu'il y a de plus en plus de familles, de femmes et d'enfants dans la rue. Et c'est aussi une augmentation des mortalités, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Et puis aussi, c'est aussi des patients, des malades qui ont des maladies chroniques, qui sont de plus en plus difficiles à suivre dans la rue. Lorsque vous avez un cancer, que vous avez une maladie parfois en stade terminal, et c'est bien de ce genre de contexte que je parle, eh bien, avoir un suivi adapté n'est pas possible lorsque vous êtes dans la rue ou lorsque vous êtes dans des centres d'accueil qui ne sont pas spécialisés et qui ne correspondent pas à vos problèmes, notamment de santé. Donc, il y a une urgence à faire en sorte que ces dispositifs d'accueil y répondent davantage en termes de nombre aux personnes qui sont dans la rue. Et je vous l'ai évoqué, hein, c'est quand même près de 60-70% en général de refus de propositions de mise à l'abri lorsqu'on appelle le 115 pendant toute l'année.
Le 115 est saturé.
C'est saturé.
Aujourd'hui, pour le dire concrètement, un SDF, un sans-abri qui vit dans la rue, doit appeler dès le matin, dès 6h, 8h du matin, le 115, pour espérer avoir une chance, un hébergement le soir même.
Ouais, alors juste déjà, en termes de représentation du SDF, parce que c'est important de l'avoir en tête,
bien sûr.
On n'est plus sur le profil d'un homme de 30 à 40 ans, en rupture sociale ou professionnelle, tel qu'on pouvait l'imaginer dans les années 80-90. Aujourd'hui, vous avez toujours ces profils-là, mais vous avez énormément de familles, de femmes seules, de femmes et d'enfants, et vous avez aussi beaucoup de mineurs, notamment ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés. Donc, ce sont des gens qui sont extrêmement vulnérables et exposés aux violences de la rue qui tuent. Et ce que l'on constate, encore une fois, dans les programmes de Médecins du Monde, entre autres, c'est qu'on n'arrive pas à transférer ces personnes lorsqu'on les voit dans la rue, en maraude par exemple, lorsqu'on fait des maraudes, c'est-à-dire qu'on va dans les squats, on va dans la rue avec des bénévoles, des salariés, des équipes qui vont leur apporter les premiers soins, on n'arrive pas à trouver des solutions. Et donc ça renvoie au constat assez clair que les dispositifs d'accueil sont insuffisants. Et puis, ils ne sont pas adaptés aussi. Quand je dis ne sont pas adaptés, c'est qu'ils ne correspondent pas à la diversité des profils des gens qui sont dans la rue, entre des familles, des femmes seules, des enfants, des malades. Vous ne pouvez pas proposer le même dispositif, sinon ça ne marche pas. Et donc, voilà, l'urgence, elle est là. Un nombre de cas dans la rue monstrueux, des morts par centaines, et un État qui, on va dire, s'agite un peu lorsqu'il fait froid, alors que les mortalités sont présentes toute l'année.
Et justement, il y a la question des sans-abri, mais plus largement la question de la pauvreté, de la précarité qui gagne du terrain en France. Et le gouvernement a annoncé en septembre un objectif à 10 ans de réduction de la pauvreté. Ça, c'était des grandes annonces. Où est-ce qu'on en est? Vous avez eu des nouvelles depuis septembre? Est-ce qu'il y a des grandes actions mobilisées au-delà, comme vous le dites, des plans grand froid, des actions temporaires? Est-ce qu'il y a une vision à long terme pour répondre à la question de la pauvreté?
Alors aujourd'hui, c'est 15% de la population française qui vit sous le seuil de pauvreté. C'est plus de 10 millions de personnes. Et effectivement, M. Macron, notamment, il y a quelques années, avait rappelé qu'il n'y aurait plus personne à la rue, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc on peut considérer que c'est un échec. Mais c'est un échec des politiques des différents gouvernements depuis 20 ans, de droite, de gauche, comme de l'en même temps, qui ne mettent pas assez les moyens dans la lutte contre les inégalités, il me semble. Et puis, pour revenir sur ce que vous évoquez, on l'a vu lors du débat sur le programme de loi de finances, le projet de loi de finances de la sécurité sociale, il y a une tendance qui, moi, me désole de beaucoup de nos élus qui considèrent que, notamment sur la question du système de santé qui est en souffrance, je vous l'apprends pas, eh bien, ce n'est pas le retrait de l'État dans le fait de soutenir la sécurité sociale qui est un problème, mais ce sont les patients. On pointe du doigt des abus, des patients qui seraient dans une situation de faire n'importe quoi.
Et on dit qu'il y a trop d'arrêts maladie, trop de médicaments.
Oui, ce qui a amené dans les débats la possibilité notamment de remettre en question l'aide médicale d'État, mais ça c'est assez classique, hein, avec les migrants qui sont les boucs émissaires de tous nos problèmes, c'est le fait de taxer les franchises médicales, alors que c'est pas passé, mais on voit dans l'esprit ce que ça veut dire, c'est remettre en question des affections longue durée, c'est-à-dire considérer qu'il y a des Français qui abusent de ces dispositifs, et d'une manière générale, on le sait, ça va être l'augmentation des forfaits et des mutuelles. Et donc, ce que l'on constate depuis de nombreuses années, qui de notre point de vue à Médecins du Monde est problématique, c'est qu'il y a une privatisation, une financiarisation du champ de la santé, avec un marché qui est largement ouvert pour les mutuelles qui sont payantes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça accentue les inégalités. Ça veut dire que les Français, aujourd'hui, ont ce qu'on appelle un reste à charge, ce qu'ils doivent payer pour leurs soins, qui est de plus en plus important. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on voit dans nos consultations aussi, c'est des patients qui retardent leurs soins, qui les diffèrent. C'est des personnes âgées, c'est plus de 500 000 qui sont précaires. C'est des étudiants qui n'arrivent pas à se soigner. Et donc, aujourd'hui, pour pouvoir lutter contre ces inégalités, c'est pas en privatisant, en financiarisant la santé, c'est en renforçant une certaine vision d'État social, et on en est loin
mais
aujourd'hui.
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas, Jean-François Corti? Parce qu'on entend aussi souvent les mêmes politiques dénoncer l'assistanat, les aides sociales qui n'inciteraient pas à retourner bosser. Qu'est-ce qui est cassé dans le modèle français? Parce que c'est aussi Emmanuel Macron qui dénonçait il y a quelques années un pognon de dingue qui serait déversé. Donc visiblement, la France serait très généreuse, dépenserait beaucoup, et pourtant la pauvreté progresse. Où est-ce que c'est cassé? Sur quel levier il faudrait activer pour répondre à la question de la pauvreté à l'heure où les politiques disent on dépense trop, justement?
Oui, alors ceux qui expliquent que le tout gratuit s'est terminé, on l'a entendu, c'est faux. Enfin, on sait très bien que tous les Français, vous et moi, on cotise pour pouvoir avoir accès à un système de santé, et donc rien n'est gratuit chez nous. Simplement, ce qui est aujourd'hui bousculé, c'est une certaine idée de la solidarité que portait le Conseil national de la Résistance, celui qui a créé la sécurité sociale le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et qui rappelait que les plus précaires paieraient comme ils peuvent, cotiseraient comme ils peuvent, et tout le monde serait soigné au même niveau, y compris les plus riches. Parce qu'on sait très bien qu'il y a un problème de santé publique, et en tout cas un principe qu'il faut respecter, c'est que plus les inégalités de santé sont importantes, plus l'état global de la santé d'une société sera mauvais. Donc on a tout intérêt à faire en sorte que les inégalités contre la santé soient combattues. Et aujourd'hui, les discours qui considèrent, qui disent que les Français abusent, qu'il y a l'assistanat et autres, ce n'est simplement qu'un moyen de déconstruire l'état social, c'est de faire la promotion d'une certaine vision d'un ultralibéralisme qui, de notre point de vue, est mauvais dans la lutte contre les inégalités et ne met pas la focale sur les problématiques de fond que sont le fait que les mutuelles sont de plus en plus chères, que le retard de recours aux soins n'est pas souvent évoqué dans la bouche des politiques que vous évoquez, alors que c'est une réalité qui fait que lorsque les patients consultent, souvent c'est trop tard, ça engage leur pronostic vital, c'est des coûts plus importants importants pour la société. Donc non, nous défendons l'idée qu'il faut un État social plus fort, qu'il faut plus de moyens dans les hôpitaux, évidemment, dans les centres de santé, mais qu'il faut surtout arrêter ce discours stigmatisant de nos concitoyens qui ne sont pas là pour abuser d'un système de santé. Il faut leur faire confiance aussi.
J'aimerais qu'on termine avec une éclaircie, Jean-François Corti, dans ce tableau que vous dépeignez, c'est que les Français sont généreux. Le total des dons aux associations de la part des particuliers et des entreprises progresse tous les ans. Ça représente combien? C'est vital pour une ONG comme Médecins du Monde aujourd'hui, les dons des particuliers?
Oui, absolument. Notre budget, il est à moitié lié aux dons de nos concitoyens. Et on est dans un contexte où, de manière plus globale, les financements des États, ce qu'on appelle l'aide publique au développement, notamment des Européens, est en train de baisser drastiquement. Et donc, les dons sont vitaux. Ils nous permettent de faire des opérations en France, à l'international, dans une trentaine de pays, de manière indépendante. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre des financements étatiques pour pouvoir développer nos opérations en toute indépendance et pour pouvoir faire ce qu'on appelle du plaidoyer, ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire défendre les droits fondamentaux, la lutte contre les inégalités. Donc c'est l'occasion, et merci de me donner l'occasion de remercier nos près de 400 000 donateurs en France qui nous permettent de faire des opérations indépendantes. Voilà, continuez à nous donner, c'est la garantie d'actions concrètes sur le terrain pour soutenir nos concitoyens.
C'est aussi la bonne date, là, on approche du 31 décembre, pour rappeler qu'un don inférieur à 1 000 euros est défiscalisé à 75% auprès de Médecins du Monde ou de toute autre ONG ou association. Merci Jean-François Corti, président de Médecins du Monde, d'avoir été notre invité ce matin en direct sur RMC. Dans un instant, le journal de 9h, la météo, et juste après, eh bien, c'est le meilleur des GG. Mais oui, Alain Marchal, Olivier Truchot et le meilleur des grandes gueules, tout de suite en direct sur RMC.
RMC, Apolline Matin.